De temps en temps, les serviteurs de Dieu vont en appeler à un jour de jeûne. Nous voyons cela dans la Bible et nous en verrons un certain nombre d'exemples aujourd'hui. Nous savons que, de temps en temps, M. Herbert Armstrong avait appelé les membres à jeûner. Dr. Meredith continue de le faire. Et je suis sûr qu'à l'avenir, peu importe qui occupera cette position, il y aura des situations qui rendront nécessaire le recours à un jeûne, tant il est vrai que nous allons au-devant d'une époque très dangereuse. Oui, nous vivons à une époque inquiétante, et cela pour bien des raisons, mais Dieu nous a donné le jeûne comme un outil important, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Dans le monde, le jeûne n'est presque jamais observé à la manière biblique. J'ai grandi dans un milieu typiquement protestant. Dans les bases militaires, on ne reconnaît que les églises de confession protestante, catholique ou juive. Il est vrai qu'à un endroit, on avait accepté une église luthérienne, car il s'y trouvait suffisamment de luthériens. Mais généralement, on s'en tenait aux trois mentionnés précédemment. Personnellement, je n'ai jamais eu connaissance d'un protestant qui aurait jeûné. Cela dit, mes amis catholiques ou luthériens jeûnaient, eux. En fait, ils jeûnaient durant 40 jours. Et probablement aussi 40 nuits. C'était à l'occasion de leur carême, une période de temps qui précédait la crucifixion. Comprenez cependant que, pour eux, le jeûne consistait seulement à renoncer à des choses auxquelles ils tenaient beaucoup, des friandises par exemple. J'ignore sur quel passage de la Bible ils basent leur pratique, car je ne vois pas où celle-ci mentionne de telles restrictions. Cette idée que le fait de renoncer à mâcher de la gomme puisse être associé à un jeûne n'a certainement rien à voir avec un jeûne biblique. Une autre chose dont ils vont se priver, c'est le café. Au Canada, ils ont la chaîne des Tim Hortons. Si vous venez au Canada, vous aurez tôt fait de les remarquer, car ils sont très populaires, bien que personnellement, je leur préfère la chaîne des Starbucks. On y trouve bien sûr du café, mais aussi des beignes, différentes sortes de biscuits et même des sandwichs et des soupes. À certaines époques de l'année, et particulièrement durant l'époque du carême, ils vont placer une sorte de collet en papier autour du rebord de la tasse, collet que l'on peut retrousser et où l'on pourra lire ce qu'on a gagné, au mieux une auto, plus souvent un autre café, ou peut-être un beigne. Pour ma part, le plus souvent, je vais y trouver une invitation à tenter ma chance une autre fois. Je suppose que cette pratique a pour but d'inciter les gens qui pourraient autrement s'abstenir de fréquenter ces lieux durant leur carême à venir tout de même, ne serait-ce qu'en raison de l'offre alléchante qu'ils leur est faite précisément à cette époque-là, afin qu'ils conservent leurs bonnes habitudes de consommateurs. Le monde nous expose aussi à un autre type de jeûne, le genre grève de la faim. Cela me fait penser à cette femme, au Canada, qui avait entrepris un jeûne de ce type. Cependant, à mesure que les jours passaient, rien n'indiquait qu'elle perdait du poids. Effectivement, après une longue période de jeûne, au cours de laquelle elle fit beaucoup parler d'elle, on avait la nette impression qu'elle était toujours aussi bien en chair qu'au début. Dans les prisons, on va aussi trouver des individus qui feront une grève de la faim. Et cela dans l'espoir que les autorités carcérales se plieront à leurs caprices. Évidemment, tout cela n'a rien à voir avec le type de jeûne que Dieu requiert de nous. Vous savez, même nous, dans l'Église de Dieu, nous pourrions jeûner de la mauvaise façon si nous n'y prenions garde. Dieu nous lance des avertissements à ce propos, afin que nous sachions ce qu'il attend de nous en matière de jeûne. Aujourd'hui, nous verrons que Dieu nous commande de jeûner à l'occasion. Il nous commande bien sûr de jeûner tous ensemble une fois par année. Mais cela ne se limite pas à cette seule fois. Nous verrons aussi que beaucoup d'événements historiques importants s'accompagnaient de jeûnes. Enfin, nous examinerons quelle est la bonne façon de jeûner. Jeûner est un commandement biblique. Nous savons évidemment qu'il est commandé de jeûner le jour des expiations. Nous pouvons nous dispenser de consulter Lévitique 23, car c'est un passage qui nous est bien familier. De toute façon, nous allons le lire bientôt, vu que nous ne sommes plus qu'à quelques semaines du jour des expiations. Encore une fois, il est particulièrement important de jeûner en ce jour-là. Dans Luc 5, verset 33, nous lisons Luc 5, verset 33, ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il est si facile de conclure après la lecture de ce verset que Christ nous a maintenant dispensés de l'obligation de jeûner. Quand je pense à ceux qui ont quitté cette grande organisation, dont nous faisions tous partie jadis, je me demande combien d'entre eux ont continué de jeûner depuis. Combien continuent même de prier et d'étudier, tant il est vrai que tout cela semble si difficile à accomplir. Certes, jeûner peut présenter des difficultés. Pour certains, c'est moins facile que pour d'autres. Et puis, cela peut aussi varier selon le groupe d'âge. Les jeunes en souffrent particulièrement, mais certaines personnes âgées peuvent aussi s'en trouver incommodées. En fin de compte, à tout âge, il se trouvera des personnes qui trouveront difficile de jeûner. Il est donc facile de se persuader que c'est là un exercice inutile. Donc les disciples avaient demandé pourquoi les disciples de Jean, ainsi que les pharisiens, jeûnaient souvent, alors que ceux de Christ ne le faisaient pas. À cela, Jésus avait répondu, verset 34, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux ?» Il y a ici une leçon très importante qui peut passer inaperçue, surtout aux yeux de ceux qui sont nouveaux dans l'Église. Moi non plus, je ne l'avais pas compris au premier abord. Il a fallu qu'on me l'explique. En essence, ce que Jésus veut leur faire comprendre, c'est que le but du jeûne est de nous rapprocher de l'époux, autrement dit de Dieu, de Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ était alors au milieu d'eux dans la chair, travaillant avec eux, les instruisant, les corrigeant même parfois, ils étaient par le fait même déjà suffisamment proches de lui. Ils voyaient les miracles qu'il faisait et tout le reste. Dans ces conditions, ils n'avaient donc pas autant besoin de jeûner. Cela dit, eux aussi allaient jeûner parfois, par exemple le jour des expiations. Mais d'ordinaire, ce n'était pas fréquent. Peut-être une fois par mois, selon la coutume de l'époque. Mais Christ a bien précisé, verset 35, « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ces jours-là. Si donc nous voulons suivre les instructions de Christ, nous allons reconnaître, vous et moi, qu'il nous faudra jeûner de temps en temps. Il est même probable qu'il nous faudrait le faire plus souvent que la plupart d'entre nous le font, car il est si facile de se laisser enterrer par nos tâches mondaines. En fait, ce n'est pas que nous ne voulons pas jeûner. Nous sommes convaincus qu'il nous faut jeûner. Mais déjà la semaine achève, et voilà que nous disons « Je crois que je vais devoir remettre cela la semaine prochaine. » Hélas, là encore, il se pourrait qu'il vous arrive des événements imprévus. Il n'est pas toujours facile de jeûner. Cela dit, vous ne voudrez pas choisir un jour de semaine, particulièrement si votre travail vous astreint à un dur labeur physique, ou que vos fonctions vous imposent un contact permanent avec le public. En ce cas, il va de soi que vous ne pourrez pas choisir un tel jour. En effet, comment pourriez-vous alors trouver le temps de prier, d'étudier et de méditer comme le veut ce jour? Tout ce que vous pourriez accomplir en un tel jour, c'est de vous priver de nourriture. Ce n'est pas suffisant. Il nous faudra donc trouver une solution. Et puis, selon les recommandations de Dr. Meredith, il nous faudra aussi demander à Dieu qu'il nous montre ce que nous n'avons pas encore vu. Il y a en effet ces péchés que nous avons déjà identifiés. Mais il nous faut encore découvrir ceux dont nous ne sommes pas conscients. Dieu peut vous les montrer, surtout si vous prenez le temps de méditer. Combien souvent jeûnons-nous? Combien souvent ai-je ce type de rapport avec mon Créateur? Dans Matthieu 6, verset 16, nous lisons « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Notez qu'il est dit « lorsque vous jeûnez » et non « si vous jeûnez ». Cela dit, même si ce verset est lu assez souvent, je ne cesse d'être étonné Quand je vois des gens qui sont dans l'Église depuis un certain temps, et dont vous savez qu'ils ont entendu et lu ce verset, et pourtant, ils trouvent toujours des façons de vous laisser savoir quand ils jeûnent. Ainsi, ils vous diront à mi-voix, excusez ma mauvaise haleine, je jeûne aujourd'hui, ou des mots à cet effet. Bien sûr, il est des situations où il sera approprié et convenable de vous exprimer quand cela pourra servir d'exemple à d'autres. Ainsi, lorsque vous habitez avec d'autres personnes, par exemple votre femme ou vos enfants, il vous sera difficile de le cacher. D'ailleurs, dans ce cas particulier, c'est bon que vos enfants sachent que leurs parents prennent au sérieux leur vie de chrétien, encore que vous n'insisterez pas pour qu'ils jeûnent de la même façon que vous. Peut-être qu'il serait indiqué, selon leur âge, qu'ils sautent parfois un repas. Chaque parent doit y voir. N'oublions pas de montrer de la compassion envers nos enfants, sachant qu'ils ne retireront pas le même bénéfice que nous s'ils jeûnent. Mais il est bon de leur montrer que papa et maman jeûnent à l'occasion. Par contre, lorsque nous jeûnons avec l'intention que cela se sache, Jésus nous dit ici que notre seule récompense sera la louange des hommes. Donc, si je jeûne, si vous jeûnez, ou si nous observons un jeûne collectif, si nous le faisons dans l'intention d'être vus, c'est la seule récompense que nous en retirerons. Mais si nous jeûnons pour être avec l'Époux, pour être proche de Jésus-Christ, proche de Dieu le Père, si c'est là le but de notre jeûne, alors nous en recueillerons de bons fruits. Il en résultera quelque chose de bon. Ce sera un jeûne profitable. Dans le livre de Joël, il est question d'une époque où les choses deviendront pires qu'elles ne le sont déjà. Franchement, notre situation est encore assez bonne. On ne peut certes pas en dire autant à propos d'autres pays, ailleurs dans le monde. Dans son ensemble, le livre de Joël traite du jour du Seigneur, de cette époque où Dieu interviendra. Notez en particulier Joël, le chapitre 2. Au verset 1, il est dit, Joël 2, verset 1, « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. » Le livre décrit alors certaines choses à propos du jour du Seigneur. À la fin du verset 11, il est dit, « Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir ?» Puis au verset 12, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Très souvent, dans la culture de l'époque, on déchirait ses vêtements. C'était même pratiqué par des serviteurs de Dieu, donc acceptable. Cependant, si cela se limitait à ce seul spectacle, il n'en résulterait rien de bénéfique, car ici, on met d'abord l'accent sur la nécessité de déchirer nos cœurs, et non nos vêtements. Notre jeûne doit nous affecter jusqu'au plus profond de notre être. Il doit avoir un impact sur ce que nous sommes et sur la nature de nos problèmes. Ainsi, verset 12, « Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. » Verset 14. « Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu ?» Nous lirons sous peu à propos d'un individu qui comprenait cela. Quand il est dit « Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas ?» Cet individu savait que son jeûne pouvait faire une différence quant à l'issue des choses à propos desquelles il jeûnait, ou peut-être pas. Mais il décida de jeûner malgré tout. Voyons à présent des exemples de jeûnes qui qui sont mentionnées dans la Bible. Il m'est arrivé un jour, il y a bien longtemps, de garder des enfants. Je ne sais plus pour quelle raison au juste. D'habitude, ce sont des filles qui font cela. Mais il est possible que je l'ai fait pour dépanner ma sœur. Toujours est-il que cela se passait dans la maison de quelqu'un d'autre. Les enfants étaient endormis et j'étudiais le sujet du jeûne à l'aide d'une concordance. C'est que par hasard, j'étais justement en train de jeûner ce jour-là. Je me suis mis à lire ce que ma concordance avait à dire sur le jeûne, le fait de jeûner ou d'avoir jeûné. En faisant une recherche sur le thème du jeûne au cours de l'histoire biblique, j'ai été étonné du nombre d'événements importants qui se sont produits en conjonction avec un jeûne. Voyons-en quelques-uns. Il y a tout d'abord Moïse, lorsqu'il reçut le décalogue, alors qu'il jeûnait 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Moïse encore, lorsqu'il revint une deuxième fois de la montagne, porteur des nouvelles tables de la loi. Sa face brillait alors avec éclat. Il venait de jeûner une deuxième fois pendant 40 jours et 40 nuits. Il s'agissait là d'un événement historique de la plus haute importance, la remise des 10 commandements et la conclusion de cette alliance mosaïque. Un autre événement d'importance concerne les 70 semaines prophétiques de Daniel 9. Daniel 9, verset 3 mentionne que Daniel était en train de jeûner au moment où Dieu lui révéla cette prophétie. Une prophétie qui identifie l'année précise où Christ allait venir pour la première fois afin d'accomplir son ministère terrestre. Les prophéties révélées à Daniel s'étendent en fait jusqu'à l'époque de la fin. En effet, un peu plus loin dans Daniel 10, verset 3, nous voyons Daniel qui jeûne à nouveau, et cela aboutira à Daniel 11, la plus longue prophétie continue de la Bible, et la plus détaillée aussi. D'accord avec vous, le livre de l'Apocalypse correspond aussi à une longue prophétie, mais le récit en est maintes fois interrompu. Daniel 11, par contre, est un long récit de 45 versets à propos des intrigues qui se nouent entre le roi du Nord et le roi du Sud. Et si vous n'avez jamais étudié Daniel 11 à fond, faites-le avec l'aide d'un bon commentaire biblique. Vous apprendrez ainsi des choses au sujet de personnages tels que Cléopâtre et Marc-Antoine, dont il est question dans Daniel 11, sans que, pour autant, leur nom y soit mentionné. On y voit les détails de toutes les intrigues qui s'y trament en coulisses, ainsi que les coups bas auxquels se livrent les leaders des royaumes du Nord et du Sud dans leur lutte les uns avec les autres. Et le récit se poursuit jusqu'au temps de la fin, à partir du verset 40 et jusqu'au verset 45. C'est donc une prophétie très importante, et Daniel l'a reçue alors qu'il jeûnait. Par ailleurs, nous sommes tous familiers avec le livre d'Esther, où l'on voit Dieu qui intervient pour sauver les Juifs de l'époque. On pense alors à Esther qui dit à ses compagnes « Jeûnons toutes pendant 3 jours et 3 nuits. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » La situation était critique. Il nous est difficile d'imaginer, nous qui vivons dans le monde actuel, que la reine ne puisse pas approcher le roi sans y être conviée. Mais ces rois avaient parfois des tempéraments difficiles, sans compter qu'ils entretenaient aussi simultanément diverses concubines. Nebuchadnezzar est un de ces exemples qui nous viennent immédiatement à l'esprit. Il était connu pour faire décapiter les gens, ou les faire jeter aux lions, et pour réduire leur demeure en un tas d'immondices. Ainsi, lorsque vous parcourez le 4e chapitre du livre de Daniel, et que vous poursuivez la lecture jusqu'au 5e, vous vous rendez compte qu'Esther était confrontée à une situation très sérieuse. Elle avait tout lieu de croire qu'en se présentant devant le roi sans y être conviée, elle risquait sa vie. C'est aussi pourquoi elle demanda à ses compagnes de se joindre à elle pour un jeûne, de non pas un jour, mais 3. Par ailleurs, on oublie souvent que son oncle Mardochée, alors qu'il échangeait message après message avec Esther, avait déjà commencé à jeûner lui aussi. En fait, dès qu'il devint conscient de la gravité de la situation. Pareillement en ce qui concerne l'ensemble de la communauté juive. Sitôt qu'elle eut connaissance du décret, visant sa condamnation à mort prochaine, elle aussi se mit alors à jeûner. Tournons-nous à présent vers le chapitre 10 du livre des Actes. Nous nous souvenons de Corneille et de Pierre qui eut cette vision d'une nappe qui descendait du ciel. Acte 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Plus loin, il est question de Pierre, qui se trouve alors sur le toit de sa maison, où il reçoit cette vision de la nappe. Nous avons eu plusieurs sermonnettes à ce sujet, et tout avait pour but de nous montrer que cette vision ne nous donne pas désormais le feu vert pour consommer des viandes impures, comme certains veulent le croire. Continuons au verset 14. Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Pierre se questionnait au sujet de la signification de cette vision. Puis, au verset 17 à 19, on apprend que Dieu, par son esprit, révèle à Pierre que des hommes s'en venaient le trouver. Ses visiteurs lui parlèrent alors de Corneille, et Pierre n'hésita pas un moment à les suivre, selon les recommandations que Dieu lui avait faites. Poursuivons au verset 27. Et, conversant avec lui, avec Corneille qui le recevait, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit Pierre, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » C'est là le verset clé pour comprendre la signification et le but de la vision que Pierre avait eue. Nous ne nous pencherons pas sur l'ensemble du chapitre, car je voudrais surtout mentionner un point en particulier. Pierre poursuivit, disant, verset 29, « C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. » La New King James dit plutôt que Corneille avait jeûné jusqu'à la 9e heure, quand il se mit à prier et que l'ange lui apparut. La Bible Second 21 corrige son texte de 1979 et va dans le même sens. Corneille achevait donc de jeûner au moment précis où Dieu accordait à Pierre cette vision de la nappe. Encore une fois, notez que Corneille, un homme intègre, très généreux et qui priait Dieu sans relâche, fut le premier non-juif à être appelé par Dieu, et cela alors qu'il jeûnait lui aussi. C'est là le point que je voulais souligner. Pensez-y. Certes, d'autres croyants ou prosélytes s'étaient convertis au judaïsme avant de se faire appeler à l'Église. Mais dans le cas de Corneille, où nous assistons à l'ouverture de la porte aux gentils, nous voyons, une fois encore, que Dieu agit en appelant un homme qui était alors en train de jeûner. Avez-vous déjà pensé, lorsqu'il vous arrive de jeûner, que Dieu pourrait alors accomplir quelque chose de remarquable avec vous ou à travers vous? Je ne veux pas dire qu'il faille maintenant attendre que Dieu se serve de vous pour commencer quelque chose d'inédit. Mais, vous savez, il peut se passer des choses lorsqu'on jeûne, et ce ne sera pas toujours selon ce que vous aurez prévu. Je me souviens de cet autre cas qui s'était présenté il y a bien des années. Nous avions alors un petit enfant malade. Ses parents nous avaient appelés car ils étaient inquiets. Puis ils avaient aussi appelé leur diacre, qui se trouvait avoir plusieurs remèdes maison. Durant quelques jours, ils avaient ainsi continué d'appeler diverses personnes dans le but de trouver toutes les cures naturelles existantes. En fin de compte, ils avaient parlé de l'enfant à un chiropraticien qui se trouvait aussi être un membre de l'Église. J'avais moi-même jeûné à cette occasion, car cela me préoccupait beaucoup. Vous savez, à cette époque, les membres hésitaient à consulter un médecin. Mais je pense qu'il est des situations où on ne devrait pas négliger de le faire. Bref, le chiropraticien m'appela par la suite, après qu'il eut parlé aux parents, pour me confier qu'il était très inquiet pour l'enfant, que, selon lui, l'enfant émettait des râles comme s'il était à l'article de la mort. Je pensais alors en moi-même, voilà, j'ai jeûné à propos de l'enfant, et voilà que le soir même où j'achève mon jeûne, je reçois cette mauvaise nouvelle. Je m'empressai alors d'appeler les parents pour qu'ils aillent consulter un médecin sans tarder. Ce n'était pas uniquement parce que la vie de l'enfant était en jeu, c'était aussi parce que ne rien faire pouvait entraîner d'éventuelles poursuites judiciaires. Ils suivirent mon conseil et virent un médecin. Celui-ci, après avoir fait son examen, considéra l'enfant moins malade que ne l'avait pensé le chiropraticien. Il faut dire que ce dernier n'avait émis son opinion qu'après avoir téléphoné aux parents, qui lui avaient alors décrit la situation et fait entendre les râles émis par leur enfant. Finalement, après avoir vu le médecin, les parents ramenèrent l'enfant à la maison, où ils lui firent prendre les médicaments qui avaient été prescrits. Mais après un jour ou deux, la situation ne s'améliora pas pour autant. Ils m'ont alors appelé de nouveau. C'est alors que, selon moi, Dieu m'a mis dans l'esprit de leur dire, « Écoutez, vous ne faites pas preuve de foi dans cette situation. Vous courez dans tous les sens, vous placez votre confiance dans tel ou tel remède, y compris dans un médecin. Mais tout ceci n'est pas de la foi. Ce que vous allez devoir faire, c'est de rester calme et de mettre votre confiance en Dieu. Laissez-le prendre charge de la situation. » Eh bien, figurez-vous qu'ils m'appelèrent déjà le lendemain matin pour m'informer que l'enfant allait bien. Il faut croire que, parfois, lorsque vous jeûnez, et j'avais jeûné pour l'enfant, la réponse ne vient pas immédiatement. Il va aussi arriver qu'après avoir jeûné pour une cause, la réponse ne viendra pas sous la forme que nous aurons imaginée. Par exemple, je me souviens de ces cas qui s'étaient présentés au Canada, où nous avions trois hommes qui se mouraient de cancer. L'un d'eux avait plus de 90 ans, l'autre était dans la cinquantaine, et quant au dernier, il était membre depuis peu. Les deux autres étaient des membres de longue date. Je me souviens que nous avions demandé à tout le monde de jeûner pour eux, et nombreux furent les membres qui s'empressèrent de répondre à l'appel. Mais voilà, tous les trois moururent peu après. Il est alors facile de conclure à un échec. Cependant, je ne suis pas prêt à penser ainsi. Prenons l'exemple de celui qui avait plus de 90 ans. Il était dans l'église depuis longtemps, et à cause de son âge, il devait bien s'attendre à mourir un jour. Il était fort en la foi et avait pleinement confiance en Dieu. Il m'avait dit, « J'ai eu une belle et longue vie. Alors, si je dois mourir, eh bien, qu'il en soit ainsi. » Quant à celui qui était membre depuis peu, il affichait vraiment une belle attitude. Il était toujours souriant et positif. Lorsqu'il recevait des visiteurs, il ne manquait jamais de leur communiquer sa joie de vivre. On peut dire qu'il affronta la mort avec une dignité sereine. Pour ce qui est du troisième individu, lorsque ma femme et moi, nous lui avons rendu visite à l'hôpital, il nous étonna lorsqu'il nous confia qu'il ne s'attendait pas à ce que Dieu le guérisse, qu'il ne le voulait même pas, qu'il se sentait prêt pour le royaume de Dieu. Et il ajouta, « Cette épreuve qui m'arrive est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. En effet, durant les 20 dernières années, je n'ai fait que végéter en quelque sorte, et je ne crois pas que j'aurais pu être dans le royaume si je n'avais pas été frappé de cette maladie. » Il projetait les regards au-delà de sa situation présente. Quand je pense à ces trois personnes, je me demande si je pourrais, advenant que je me trouve un jour dans une situation comme la leur, m'en sortir avec la bravoure, la dignité et la largeur d'esprit dont ils ont fait preuve. Oui, certains ont pu penser que notre jeûne collectif n'eut aucun effet, mais je ne le crois pas, car il me semble que nous en avons retiré des leçons. Il y a des fois que Dieu dira oui, et des fois que sa réponse sera non, et cela indépendamment de notre façon de prier et de jeûner. Cependant, reconnaissons que le jeûne, s'il est effectué proprement, fera une différence. Parfois, lorsqu'on regardera en arrière, on comprendra le pourquoi des choses, même si ce n'est pas toujours le cas sur le coup. Un autre événement impliquant un jeûne nous est donné dans Actes chapitre 13 au verset 1. Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Puis on nous dresse la liste de ceux-ci. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Il est intéressant de noter ce qui s'est passé ici. Ces leaders de l'église d'Antioche étaient donc réunis et ils jeûnaient et priaient. Or, voilà que le Saint-Esprit montre clairement à tous qu'on devrait envoyer deux d'entre eux en mission, à savoir Paul et Barnabas. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on va apprendre que Paul et Barnabas sont des apôtres. Justement, tournons-nous rapidement vers Acte 14, au verset 14, où nous voyons ces apôtres qui en sont à leur premier voyage. Acte 14, verset 14. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Nous n'avons pas besoin de connaître le reste de l'histoire pour le moment. Je voulais seulement profiter de ce verset pour prouver que Paul et Barnabas sont effectivement des apôtres à ce stade. Il semble donc qu'au chapitre 13, où ils priaient et jeûnaient, les leaders de l'église d'Antioche n'envoyèrent pas deux d'entre eux en mission sans leur conférer de l'autorité. Quand ils les envoyèrent, ce fut en qualité d'apôtres. Nous savons qu'ils leur imposèrent les mains avant de les laisser partir, mais ce qu'on ne sait pas, c'est si leur ordination en tant qu'apôtres eut lieu au même moment. Il semble pourtant que c'est bien ce qui se produisit, car on lit qu'ils jeûnèrent, qu'ils leur imposèrent les mains et qu'ils les envoyèrent ensuite en mission. Et c'est alors qu'on entend parler d'eux en tant qu'apôtres. Cette ordination de Paul représente certainement un événement important, car n'est-ce pas lui qui deviendra l'auteur de 14 livres dans le Nouveau Testament? Revenons maintenant à l'Ancien Testament, au premier chapitre du livre de Néhémie. C'était un homme plein de bravoure, et j'ai toujours aimé lire ce que la Bible dit à son sujet. Néhémie 1, verset 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Il est possible qu'il ait fait un long jeûne ou qu'il ait fait des jeûnes répétés de courte durée pendant un certain laps de temps. Une chose est sûre cependant, il a jeûné et prié, tant il est vrai que l'un et l'autre vont bien ensemble. Pendant qu'il agissait ainsi, le voilà qui dit, et c'est là ce qui nous importe, verset 5, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment jour et nuit. On a vraiment l'impression ici que la prière qu'il adresse à Dieu est une prière chargée d'émotions et qu'il y consacre toute son énergie. Il poursuit en disant: Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père nous avons péché. Et c'est là une chose qui doit accompagner notre jeûne, le désir de vouloir rechercher nos péchés et de nous en confesser. C'est là ce qui caractérise les serviteurs de Dieu quand ils se livrent à un jeûne. En pareille circonstance, ils vont non seulement confesser leurs propres péchés, mais aussi ceux de leur maison et de leur nation. Verset 7. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. On le voit donc ici implorer Dieu par la prière. Puis au verset 10, Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Puis nous apprenons que Néhémie était les chansons du roi. Il était donc un serviteur qui jouissait de la confiance du roi. À certaines époques de l'histoire, les échansons ne se contentaient pas simplement de servir le vin. Ils devaient le goûter avant de le servir au roi. Ainsi, advenant que quelqu'un y aurait introduit du poison, ils risquaient leur vie en servant le roi. Néhémie occupait donc un poste important, et le roi, qui avait toute confiance en lui, était particulièrement attentif à son état d'esprit. Nous le voyons donc ici qui prie, tout en jeûnant, et avant de reprendre son service auprès du roi. Néhémie, chapitre 2, verset 1. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Néhémie était de ces gens qui sont gais de nature. Connaissez-vous des gens qui sont comme cela? Nous avons à notre bureau chef des réceptionnistes qui affichent ordinairement une telle attitude. Et c'est pourquoi, lorsque, un jour, celle-ci leur fait défaut, nous savons que quelque chose ne va pas. Eh bien, il semble que Néhémie était de ces individus qui sont ordinairement gais. Et c'est pourquoi le verset 1 dit qu'il n'avait encore jamais paru triste en présence du roi. Verset 2. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. On peut comprendre pourquoi. En effet, lorsque le roi constate que ses serviteurs ne sont pas contents, il pourrait penser que ceux-ci sont mécontents de lui. Or, un serviteur mécontent pourrait s'en prendre à lui, soit qu'il aurait été soudoyé ou qu'il aurait développé une quelconque animosité à son égard. Conscient de cela, Néhémie s'empresse de répondre au roi. Verset 3. Que le roi vive éternellement. Voilà un bon départ. Puis il enchaîne disant, « Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ?» On le voit ici qui va directement au but. Verset 4. « Et le roi me dit, « Que demandes-tu ?» Néhémie adresse alors une prière rapide au Dieu des cieux, l'implorant de lui accorder les mots appropriés pour répondre au roi. Puis après une profonde respiration, il enchaîne disant « Si le roi le trouve bon ?» Et c'est alors qu'il informe le roi de son désir d'aller à Jérusalem afin de rebâtir ses murailles ainsi que la ville. Sautons à présent au chapitre 8. un chapitre qui nous est familier, car il est souvent lu durant la fête des tabernacles. Au dernier verset du chapitre précédent, on apprenait qu'au septième mois, les enfants d'Israël étaient dans leur ville, et cela après qu'on en eut rebâti les murailles. Puis, dans Néhémie 8, verset 1, il est dit, Néhémie 8, verset 1, Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Vous pourrez lire le reste par vous-même, mais vous allez probablement l'entendre à nouveau cette année durant la fête des tabernacles. Ils allaient donc tout d'abord observer la fête des trompettes, puis, ayant appris qu'il faut également observer la fête des tabernacles, nous apprenons au verset 17, toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil, et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, durant la fête des tabernacles, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle le huitième jour, comme cela est ordonné. Cela dit, la fête des tabernacles commence au 15e jour du septième mois et dure 7 jours, jusqu'à ce qu'ait lieu la fête du dernier grand jour, le 22e jour du septième mois. Tout cela est connu de la plupart d'entre nous, mais ce qui échappe peut-être à certains, c'est ce dont il est question au début de Néhémie 9. Néhémie 9, verset 1. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Cela se passait donc 2 jours après la célébration de la fête du dernier grand jour. Je suppose que ceci eut lieu le jour du sabbat qui suivit cette fête. On devait les avoir instruits de quelque chose, et les voilà qui s'assemblent pour jeûner. Puis au verset 2, « Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. » Notez une fois encore qu'en jeûnant, ils confessaient simultanément leurs péchés, pas seulement les leurs, mais ceux de leurs pères et même de leur nation. Verset 3. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et adorèrent l'Éternel leur Dieu. Ainsi, ils effectuèrent une sorte de partage de la journée. Un quart de celle-ci fut consacré à la lecture du livre de la loi, un autre quart à la prière et à la confession de leurs péchés. La Bible n'est pas très explicite à ce sujet, mais un peu plus loin, on nous apprend que ce fut là l'occasion pour eux de conclure une alliance avec Dieu. Et cette alliance s'accompagnait de 3 promesses. 1. Qu'ils ne contracteraient plus de mariage avec des peuples étrangers. Pas seulement pour éviter une perte de leur culture et de leur identité, mais aussi pour conserver intacte leur religion. 2. Qu'ils s'abstiendraient de se livrer à des activités commerciales le jour du sabbat. Ce qui ne veut pas dire, en ce qui nous concerne, qu'il nous est maintenant interdit de commander une tasse de café ce jour-là, si nous devions parcourir une grande distance pour nous rendre au service. 3. Qu'ils seraient fidèles dans leurs dîmes, ainsi que dans leurs autres obligations financières. Voilà ce qu'ils s'engageaient à observer. Hélas, s'il est vrai qu'au début ils tinrent promesse, ils ne tardèrent pas à se relâcher. Notez que l'alliance qu'ils conclurent ce jour-là avec Dieu fut accompagnée d'un jeûne. Nous avons aussi l'exemple de la mort de Saül et de Jonathan. Quand ils furent tués, la nation se mit à jeûner, David en particulier, mais d'autres également. Et puis il y a le cas de Josaphat, dans 2 Chroniques chapitre 20. Que M. Ames a évoqué il y a 2 semaines et auquel Dr. Meredith a fait allusion dans sa dernière lettre aux membres. Et puis nous n'avons même pas encore parlé du jeûne de Jésus-Christ. Ce jeûne de 40 jours et 40 nuits à la suite duquel il fut tenté par le diable. Ce fut là un événement de première importance, un fait historique, qui nous montre comment Christ a triomphé de Satan alors qu'il était faible physiquement mais proche de Dieu spirituellement. Nous avons encore d'autres exemples, comme 2 Samuel chapitre 12, un passage qui devrait nous être familier, mais dont je tiens tout de même à parler, car il contient d'importantes leçons pour nous. Il y est question du prophète Nathan, qui vient au-devant de David pour le confronter à son péché d'adultère et de meurtre dans l'affaire Bathsheba. Il lui annonce alors que 3 choses lui arriveraient à cause de son péché. 1. L'épée ne s'éloignerait plus de lui. 2. L'adversité le frapperait et elle viendrait de sa propre maison. 3. L'enfant qui naîtrait de cette relation adultère mourrait. Effectivement, au verset 15, il est dit, 2 Samuel 12, verset 15, « Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Il avait donc jeûné, et cela pendant 7 jours. David, nous le savons, était un homme sincère, et c'est de tout son cœur qu'il s'était impliqué dans ce jeûne, et qu'il avait imploré Dieu pour qu'il laisse vivre l'enfant. Mais Dieu refusa. David savait que Dieu pouvait changer d'idée. Mais ici, Dieu ne céda point. Poursuivons, verset 18. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car ils disaient, « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, « L'enfant est mort. Il s'affligera bien davantage. » Verset 19. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre. Il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. On voit ici que, même s'il avait jeûné, il prit le temps de faire une toilette, puis il retourna à la maison de l'Éternel pour adorer. Poursuivons. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais ? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit, verset 22, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, « Qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas ? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je ? Oui, à quoi bon jeûner à présent ?» Il avait eu la réponse de Dieu, et c'était non. Dans Juges chapitre 19, nous lisons à propos de ce Lévite et de sa concubine. Leur relation battait de l'aile, et c'est pourquoi elle retourna vivre chez son père. Là, elle se mit à se prostituer. Sur ce, le Lévite alla la chercher pour la ramener chez lui. Mais une fois arrivé chez le père de sa concubine, celui-ci le traita si bien que son retour en fut retardé de plusieurs jours. Il finit pourtant par se décider à partir un jour, alors que le soleil était déjà sur le point de se coucher. Ils ne purent cependant pas se rendre bien loin que déjà la nuit tombait. Heureusement qu'à Gibéa de Benjamin, un vieil homme leur accorda l'hospitalité pour passer la nuit. Hélas, à peine arrivés, les gens de la ville, des hommes pervers, voulurent abuser d'eux, faisant pression sur le vieil homme pour qu'il leur livre le Lévite qu'il hébergeait. on en vint finalement à un compromis honteux, à la suite duquel c'est la concubine du Lévite qui fut offerte à ces hommes pervers, lesquels en abusèrent toute la nuit. Verset 26, Juges 19, verset 26. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison, et sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi, et allons-nous-en. » En voilà un bel exemple de compassion. Pareille chose peut paraître difficile à concevoir de nos jours. Pourtant, le monde actuel n'est-il pas, lui aussi, le théâtre de cruautés de toutes sortes? Certes, ce Lévite manquait de cœur. D'abord, il agit en lâche en leur livrant sa concubine. Puis, après que celle-ci se soit fait abuser toute la nuit, il se contente de lui dire « Lève-toi et partons d'ici ». Mais voyons la fin du verset 28. « Elle ne répondit pas. » Alors le mari la mit sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Elle ne répondit pas parce qu'elle était morte. C'est pourquoi au verset 29 nous lisons « Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. » Juge 19 commençait en disant « Qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. » Et c'est exactement ainsi que finit Juge chapitre 21, où on lit la même chose au verset 25, qui ajoute « Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Cependant, même à cette époque-là, le fait d'avoir reçu un fragment de corps humain déchaîna tout de même un tollé général. Et c'est pourquoi, dans Juge chapitre 20, verset 1, on lit Juge chapitre 20, verset 1, « Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays de Galaad, et toute l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. » On vint donc de toutes parts pour avoir des explications. Sur ce, le Lévite leur raconta ce qui s'était passé, et voilà qu'ils se mettent dans une colère folle contre les Benjamites de Gibéa. Ils envoient alors une délégation aux Benjamites pour s'informer de ce qu'ils comptaient faire à présent. Ils allèrent même jusqu'à exiger qu'on leur livre les coupables afin qu'ils soient exécutés pour avoir abusé de cette femme au point de la faire mourir. Mais les Benjamites firent la sourde oreille. Verset 13. Juge 20, verset 13. « Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. » Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Au lieu de cela, ils assemblèrent une armée, et c'est ainsi que deux armées vont s'affronter. Les Israélites disposaient de beaucoup plus de troupes que les Benjamites, mais ces derniers allaient se montrer têtus. Ils ne livreraient aucun coupable tel que demandé. Oh, si seulement le Lévite avait eu le courage de protéger sa concubine contre les gens pervers de Gibéa. On peut imputer bien des choses à ces Benjamites, mais il faut tout de même reconnaître que leur conduite dénote ici une bonne dose de courage. Finalement, voyons où tout cela va mener. Verset 18. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant « Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin ?» Ils avaient donc déjà décidé de la conduite à tenir. Restait seulement à déterminer qui partirait en premier. L'Éternel répondit « Judas montera le premier. » Verset 19. « Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche, et ils campèrent près de Gibéa. Ils livrèrent bataille aux Benjamites, qui leur firent perdre 22 000 hommes ce jour-là. » Israël fut en état de choc. Jamais il ne se serait attendu à pareil dénouement. Puis au verset 22, « Le peuple, les enfants d'Israël reprirent courage. Et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Ils décidèrent donc de prendre leur revanche et d'attaquer de nouveau. Cependant, avant d'agir, on les voit cette fois qui adoptent une nouvelle stratégie. Consultez Dieu pour savoir s'il approuvera leur action. Verset 23. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère ?» L'Éternel répondit, « Montez contre lui. » Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et, ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre, et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Qu'est-ce qui se passe ici? Dieu n'avait-il pas dit « Montez contre lui » Alors, pourquoi cette nouvelle défaite? Très simple. Dans leur esprit, dès le début, ils avaient en fait déjà décidé d'attaquer leur frère Benjamite, et ce n'est que par acquis de conscience, pour bien paraître, qu'ils avaient ensuite consulté Dieu. Leurs deux échecs consécutifs, en particulier le deuxième, où Dieu leur avait pourtant donné le feu vert, étaient causés par le fait qu'ils avaient déjà décidé en leur fort intérieur qu'ils attaqueraient. Aussi, Dieu leur avait dit, « Eh bien, allez-y, puisque vous l'avez déjà décidé d'avance. » Alors, après ce nouvel échec, verset 26, « Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. » Cette fois, ils ont compris la leçon. Ils cessent de faire leur propre volonté et s'en remettent vraiment à Dieu. Ils vont prier et jeûner et attendre sa décision. Ils vont donc le consulter pour connaître sa volonté au lieu d'avoir déjà leur idée toute faite d'avance. Cette fois, Dieu leur répond en leur garantissant la victoire. Vous savez, les gens vont parfois prendre des décisions qui leur semblent rationnelles, alors que tout leur entourage les trouve farfelus. Puis, quand les résultats ne sont pas à la hauteur de leurs attentes, ils s'exclameront « Je n'y comprends rien. J'avais pourtant prié et jeûné à ce sujet. N'étais-je pas alors en droit d'espérer un succès ?» Oui, à condition de vous appuyer sur de sages conseils avant de vous engager. Mais si vous avez déjà décidé ce que vous ferez, alors, quand bien même vous jeûneriez à ce propos, si la chose n'a pas de sens a priori, ne vous attendez pas à un succès. Nous approcher de Dieu et le supplier de nous faire connaître sa volonté n'est pas chose facile, n'est-ce pas? Il nous faut vraiment aller vers lui sans avoir notre propre idée déjà toute faite. Il nous faut dire « Que ta volonté s'accomplisse, pas la mienne ». N'oublions pas ce que nous dit Proverbe 19, verset 21. « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Combien de fois allons-nous élaborer des plans pour notre vie sans nous rendre compte que Dieu planifie quelque chose de tout à fait différent? Je connais des gens qui ont une idée précise sur ce qu'ils veulent faire dans la vie et comment ils veulent servir Dieu. Ainsi, ils visent peut-être le ministère, sans se douter que Dieu pense autrement. Rien ne sert de jeûner si vous ne vous êtes pas pleinement soumis à la volonté de Dieu. Ce qu'il nous faut, c'est mettre notre confiance en Dieu, avoir foi en lui. Dans le cas de ces Israélites, qui voulaient châtier leur frère Benjamite, ce n'est qu'après qu'ils eurent approché Dieu avec l'intention de connaître sa volonté, en priant, en jeûnant et en lui offrant des sacrifices, ce n'est qu'alors que les choses aboutirent au succès. Évidemment, pour ce qui est des Benjamites, ce fut différent. Mais il fallait bien qu'ils soient remis à l'ordre, car ils présentaient de sérieux problèmes de comportement. Voyons à présent comment on doit jeûner et avec quelle motivation. Il y a en effet deux façons de jeûner, la bonne et la mauvaise. Tournons-nous vers 1 roi, chapitre 21. Pour gagner du temps, laissez-moi vous décrire la situation que nous rencontrons ici. Il y est question du roi Achab, qui veut acheter la vigne de Naboth pour en faire un jardin potager. Naboth refuse. Sur ce, Achab se retire en lui-même. Il est triste et irrité. Il boude et s'abstient de manger. Mais voilà qu'arrive sa femme Jézabel. Lorsqu'elle apprend la situation, elle le raisonne, disant « Voyons, c'est qui le roi ici ? Laisse-moi régler cette affaire à ta place, puisque tu n'oses pas agir. Moi, je vais te la donner, cette vigne. » Elle rédige alors des lettres aux magistrats de la ville, fait publier un jeûne, obtient de faux témoins et s'arrange pour faire mourir Naboth. Résultat ? 1 Roi, chapitre 21, verset 11. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Verset 12. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Inutile de dire que ce jeûne-là n'avait pas pour but de se rapprocher de Dieu. Au contraire, Jézabel ne s'en était servie que pour aboutir à ses fins. Ce n'est pas là ce qui doit motiver notre jeûne. Dans son cas, elle s'en servait pour faire condamner un innocent. Verset 15. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » C'est à ce stade, au verset 17, qu'intervient Élie le Tishbite. Dieu lui dit de se rendre auprès d'Achab et de le confronter aux méfaits commis envers Naboth. Le prophète doit ensuite annoncer à Achab qu'il va mourir. Lisons-le au verset 19. 1 Roi, chapitre 21, verset 19. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur ?» Et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. » Achab dit à Élie, « M'as-tu trouvé, mon ennemi ?» Et il répondit, « Je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. » Puis le verset 25 ajoute, « Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab, pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que Dieu chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac, et il marchait lentement. C'est avec une telle attitude qu'il put se racheter un peu aux yeux de Dieu, et cela malgré sa conduite antérieure. Dieu lui montra de la clémence quand il se décida à jeûner, et cela, même si le verset 25 dit qu'il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et que le verset 26 ajoute qu'il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles. Notez en effet comment, au verset 29, Dieu fait remarquer à Élie le Tishbite, « As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Nous avons donc vu ici deux exemples de jeûne. Celui que Jézabel a commandé dans l'affaire de Naboth, et cet autre où nous assistons à la profonde et sincère repentance d'Achab. Deux exemples extrêmes et, évidemment, seul celui d'Achab fut agréé par Dieu. Je vous encourage à lire aussi Ésaïe chapitre 58, quand vous en aurez le temps, car le prophète nous y montre les mauvaises raisons de jeûner, tout en nous indiquant quelle serait la bonne façon de le faire. Cependant, alors que nous approchons de la fin de ce sermon, j'aimerais vous citer quelques passages tirés du volume 1 de l'autobiographie de M. Armstrong. Plusieurs parmi nous ont lu ce livre, j'en suis sûr. Les autres pourraient peut-être l'emprunter de quelqu'un, voire de la bibliothèque de l'Église. Pour le moins, vous pourriez essayer de vous procurer une photocopie de ces passages. Au début du chapitre 22, M. Armstrong écrit « Jamais, au cours de ma vie, je n'avais eu à faire face à une situation aussi critique que celle qui nous frappa au début de l'année 1930. Ce n'est pas seulement que notre situation financière s'annonçait tout aussi précaire que par le passé, tandis que notre nation s'enfonçait de plus en plus dans le gouffre de la dépression. Mais voilà que nous devenions simultanément conscients de notre manque de foi en Dieu. Nous n'étions plus qu'à 6 semaines de la naissance de notre quatrième enfant. Alors que ma femme avait bénéficié d'une guérison spectaculaire en 1927, elle était en ce moment dans une condition alarmante. Elle souffrait d'anémie, son sang manquait de fer, et elle montrait des signes d'épuisement. Les Armstrong avaient un problème. N'ayant pas pu acquitter les frais occasionnés par l'accouchement de l'enfant précédent, l'hôpital refuserait son admission pour cette nouvelle naissance, même si leur médecin insistait que cela était indispensable. Et M. Armstrong d'ajouter « J'avais prié pour la guérison de ma femme, mais elle ne fut pas guérie. J'ai continué de prier, mais en vain. La date de son accouchement approchait. Nous étions désespérés. » Quel était le problème? Nous avions appris que Dieu guérit. Pourquoi nos prières restaient-elles sans réponse? Il est évident que Dieu n'a pas changé. Sa parole nous assure qu'il guérit, et l'Écriture ne ment point. Dieu ne pouvait donc pas être incriminé. Le problème devait être avec nous. Mais comment le cerner? Vous savez, souvent, lorsque nous avons des problèmes, il nous est difficile d'en trouver la cause. On cherche un coupable, alors que souvent, le coupable, c'est nous-mêmes. M. Armstrong continue disant « J'étais convaincu d'être la cause du problème, mais je n'arrivais pas pour autant à l'identifier. Je savais seulement que pour bénéficier d'une guérison miraculeuse, il faut obéir à Dieu, selon ce que dit 1 Jean chapitre 3 verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Pourtant, cela faisait maintenant 3 ans que j'avais résolu d'observer les commandements de Dieu. Je savais aussi que faire preuve de foi est une autre condition. Là encore, il me semblait que ma confiance en Dieu était tout aussi ferme qu'à l'époque où il avait guéri ma femme précédemment. Il ne m'était plus permis de gaspiller du temps. Il me fallait résoudre l'énigme sans tarder. Je ne voyais plus d'autre alternative que de recourir à la prière et au jeûne. C'était en quelque sorte la solution de dernier recours. Cela dit, je ne savais pas comment m'y prendre pour jeûner et prier, car je ne l'avais encore jamais fait. Je me souvenais seulement de cet incident où les disciples de Christ n'avaient pas réussi à chasser un démon, et Christ leur avait alors mentionné que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Je me mis donc à jeûner. Mon jeûne débuta un samedi matin. Ce matin-là, je ne pris pas de petit déjeuner. Ne sachant pas comment procéder lors d'un jeûne, je commençai par prier pour que Dieu me montre quoi faire. Puis, sachant que Dieu nous parle par l'intermédiaire de sa parole écrite, je me mis à explorer la Bible pour obtenir des instructions à propos de la bonne façon de jeûner. Ainsi, aidé d'une concordance, je me mis pendant 1 heure à étudier tous les passages des Écritures qui ont rapport à la prière et au jeûne. Une grande partie du temps, je le faisais à genoux. Puis, pendant 1 autre heure, je me livrais à la méditation. Ce faisant, je repassais dans mon esprit les versets que je venais de lire. Je passais également en revue la vie que j'avais menée au cours des derniers mois et m'efforçais de la comparer à la voix de Dieu telle que révélée dans les Écritures. Enfin, je consacrais une heure à la prière. Puis je répétais le cycle dans le même ordre, une heure d'étude, une heure de méditation et une heure de prière. Durant ce processus, je n'ai jamais, à aucun moment, demandé à Dieu de guérir ma femme. Cela, je l'avais déjà fait durant des semaines sans obtenir de réponse. Notez bien qu'en priant et en jeûnant, mon but n'était pas de mettre de la pression sur Dieu pour l'amener à faire ma volonté et à m'accorder ce que je lui demandais. C'était plutôt afin de comprendre ce que je faisais de mal. Je savais pertinemment qu'il n'est pas nécessaire d'harceler Dieu avec nos requêtes. Frères et sœurs, nous n'avons pas le temps ici de poursuivre notre lecture du chapitre 22 de son livre, mais vous pourrez toujours le faire par vous-même. En fin de compte, M. Armstrong finit par comprendre qu'il avait consacré trop de temps à la poursuite d'un projet personnel, qu'il avait relégué Dieu au second plan dans sa vie. Or, cela, Dieu ne peut l'accepter. Il y a là une leçon pour chacun d'entre nous. Quel usage faisons-nous de notre temps? Qu'est-ce qui nous passionne dans la vie? Tous, nous sommes confrontés à des problèmes potentiels dans ce monde de Satan. Ainsi, certains d'entre nous adorent ces gadgets électroniques dont la société nous inonde. Il faut se méfier de tomber dans ces pièges de Satan. Pour ma part, je suis un peu moins vulnérable de ce côté-là, car moins porté vers ces nouvelles technologies. Notez que, mis à part le danger de nous exposer à la pornographie et d'autres perversions, l'Internet peut tout de même nous être bénéfique dans d'autres domaines, à condition de ne pas en faire un usage abusif. Luttons contre cette tendance chez plusieurs d'entre nous à consacrer beaucoup trop de temps à consulter tous ces messages que nous recevons continuellement grâce à nos téléphones intelligents, nos ordinateurs et toute cette panoplie de gadgets électroniques qui existent à l'heure actuelle. Donc soyons prudents, veillons à ce que cela n'éclipse pas ce qui est plus important. Monsieur Armstrong avait donc cherché ce qu'il faisait de travers. Il n'avait pas harcelé Dieu pour faire passer sa volonté. Non, il se demandait seulement « Qu'ai-je fait de mal ?» Je dois avouer, après avoir lu le chapitre 22 de son autobiographie, que je n'aurais pas la capacité de concentration pour méditer ainsi pendant une heure entière, comme lui l'a fait. Peut-être aurais-je pu quand j'étais jeune. À présent, un jeûne me fatigue, et il me faudra alors m'étendre périodiquement pour faire une sieste. Ainsi, vous ne pourrez peut-être pas suivre parfaitement l'exemple de M. Armstrong, car c'était un homme hors du commun. N'empêche qu'il nous a donné un bon exemple, et il serait bon de l'imiter lorsqu'il nous recommande d'étudier, de méditer et de prier. Efforçons-nous de le faire au cours de la journée de notre jeûne, afin que ce jour ne se réduise pas seulement à un jour durant lequel nous nous serons abstenus de manger. N'est-ce pas en effet ce que nous nous contentions de faire à nos débuts dans l'Église? Pour être efficace, un jour de jeûne ne sera donc pas un jour où nous vaquerons à nos tâches habituelles, excepté que nous nous abstiendrons alors de manger et de boire. Efforçons-nous au contraire à en profiter pour cultiver des rapports plus étroits et plus intenses avec notre Dieu. Pour ma part, lorsque je commence un jeûne, mon esprit est un peu confus et j'éprouve ordinairement quelques difficultés à me concentrer. Je trouve cependant qu'en ayant deux ou trois siestes durant la journée, entrecoupées de périodes consacrées à l'étude et à la prière, il m'est alors possible, vers la fin de mon jeûne, d'avoir des pensées plus claires et de communiquer alors avec Dieu avec plus d'efficacité qu'à l'ordinaire. J'espère qu'il en est de même en ce qui vous concerne. Dieu nous donne des outils pour nous permettre de cultiver de meilleurs rapports avec lui. Il y a ainsi la prière, l'étude et la méditation. Cependant, ce qui est de loin le plus efficace, c'est lorsqu'on fait appel à l'action conjuguée de ces trois outils et qu'on les combine à un jeûne selon les règles. Faisons donc usage de tous ces outils que Dieu met à notre disposition et ayons l'assurance qu'il nous bénira et qu'il bénira l'œuvre si nous nous humilions ainsi et que nous l'invoquons de tout cœur par nos prières ferventes individuelles et collectives.